RCF.
Il est 7h30, voici le journal de la rédaction présenté ce matin par Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et à la une, le Vatican serre la vis dans les diocèses français.
Après la suspension des ordinations il y a quelques semaines à Toulon, c'est le début ce lundi de la visite apostolique dans le diocèse de Strasbourg. Une sorte d'inspection générale sur d'éventuels problèmes de gouvernance. Ils étaient appelés dès 3h du matin cette nuit à bloquer les zones industrielles. Les routiers en grève ce lundi partout en France, ils réclament des hausses de salaire. Les pays du G7 accentuent la pression sur la Russie. Ils ont annoncé hier la possibilité d'un embargo sur l'or importé de Russie. Et puis on vous parlera aussi dans ce journal de cette mobilisation assez exceptionnelle des pharmaciens lyonnais pour soigner un adolescent greffé du foie. Ils ont relancé la production d'un médicament qui n'existait plus en France. Les diocèses de France sont-ils dans le viseur de Rome? La visite apostolique ordonnée par le pape débute ce lundi dans l'archidiocèse de Strasbourg. Un audit qui intervient 3 semaines après la suspension des ordinations dans le diocèse de Fréjus-Toulon suite à une visite de l'archevêque de Marseille. Alors faut-il voir un lien entre ces deux affaires, Pauline Torsiac?
Oui Thomas, on pourrait y voir une démarche similaire à celle dont a fait l'objet le diocèse de Toulon. Rappelons qu'il y a quelques mois, l'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, avait effectué dans la discrétion une visite du diocèse de Toulon qualifiée de fraternelle afin de trouver des solutions sur la politique d'accueil des prêtres. Mais cet audit qui démarre aujourd'hui dans l'archidiocèse de Strasbourg est de nature un peu différente. D'abord, fait assez rare, la nonciature en a fait part publiquement dans un communiqué publié jeudi dernier. Ensuite, cette visite apostolique a été confiée à un évêque étranger à la région Grand Est, Monseigneur Stanislas Lalanne, un évêque expérimenté actuellement en poste à Pontoise. Ce qui serait en cause dans cette affaire, c'est la gouvernance du diocèse par Monseigneur Luc Ravel, sa relation distante avec les prêtres et les fidèles. Le licenciement récent de son économe diocésain aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Monseigneur Ravel est arrivé en 2017 à la tête d'un gros diocèse qui compte plus de 500 prêtres, 250 laïcs rémunérés et 90 diacres, des prêtres et agents pastoraux dont les salaires sont directement versés par l'État dans ce diocèse concordataire où le denier de l'Église n'existe pas. Monseigneur Luc Ravel a fait savoir par communiqué qu'il accueillait cette visite dans la foi et la confiance.
Les précisions de Pauline de Torsiac. Au chapitre politique, Elisabeth Borne à la recherche d'un accord de gouvernement, mission confiée ce week-end par Emmanuel Macron. La première ministre reçoit à partir d'aujourd'hui les présidents de groupes parlementaires. Alors un consensus sera-t-il trouvé avec l'opposition autour du projet de loi pouvoir d'achat? Elle doit être présentée dès cet été à l'Assemblée. L'exécutif réfléchit à une hausse de 4% de plusieurs prestations sociales comme le RSA ou l'allocation adultes handicapés. Le gouvernement qui a par ailleurs précisé certaines mesures contre la forte inflation. Il n'y aura finalement pas de gel, mais bien un plafonnement des loyers. Leur montant ne devra pas augmenter de plus de 3,5%.
Ils réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Les routiers sont en grève ce lundi.
L'ensemble des syndicats du secteur appellent les professionnels à bloquer les zones industrielles aujourd'hui. Ils veulent alerter sur la pénibilité de leur métier. Thierry Douin est le président de la Fédération Générale des Transports CFTC.
Ce qui est triste à voir et à regarder, c'est que nous étions pendant la période Covid, les salariés de la seconde ligne, les salariés nécessaires, les gens sur lesquels on pouvait compter. Ces gens-là ont travaillé sans peur, je dirais, de toute leur force. Et aujourd'hui, ce sont encore les grands oubliés. Quand vous avez des métiers, que vous n'êtes pas dans votre famille et qu'on vous paye, je dirais, au ras les pâquerettes, la fin de mois, c'est bientôt le début du mois. Les gens n'y arrivent plus, ne s'en sortent plus, sont plus chez eux, sont plus dans l'équilibre vie de famille. Et en même temps, ne gagnent pas leur vie à la juste rémunération qu'ils devraient avoir. Nous, ce que l'on demande, c'est de pouvoir se remettre autour de la table régulièrement pour réajuster les grilles de salaire des minimums conventionnels.
Thierry Douin, président de la Fédération Générale des Transports, CFTC. Ultime audience ce lundi à la Cour d'assises spéciale de Paris. Débuté en septembre dernier, le procès des attentats du 13 novembre, le plus long de l'histoire judiciaire criminelle française d'après-guerre, doit s'achever après-demain avec l'énoncé du verdict. Aujourd'hui, les 14 accusés présents, dont Salah Abdeslam, auront l'occasion de s'exprimer une dernière fois devant les juges. Des peines de 5 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité ont été requises. C'est un appel totalement totalement inédit de la part des dirigeants des grandes entreprises énergétiques. Dans une tribune au JDD, les PDG de Total Energy, EDF et Engie demandent aux Français de limiter immédiatement leur consommation électrique, gazière et de produits pétroliers. Une prise de conscience individuelle et collective pour éviter les pénuries et une forte hausse des prix l'hiver prochain, expliquent les fournisseurs d'énergie. Et dans ce contexte, le ministère de la Transition écologique a confirmé hier que la remise en service de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle était possible dès cet hiver, une centrale qui a cessé ses activités il y a 3 mois.
À l'international à présent, pour la première fois depuis plusieurs semaines, la capitale ukrainienne Kiev visée hier par les frappes russes.
Un quartier résidentiel a notamment été touché, une personne est décédée, plusieurs blessés. Difficile de ne pas y voir une forme de provocation de la part du Kremlin le jour de l'ouverture du sommet du G7. Les 7 plus grandes puissances mondiales réunies en Allemagne, elles n'ont pas tardé avant d'aborder le dossier central, cette guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions annoncées contre la Russie. Magali Santulli.
Et oui, la décision n'est pas encore formellement actée par l'ensemble des pays du G7, mais dès hier, les dirigeants américains et britanniques ont annoncé un embargo sur l'or russe, une mesure qui priverait Moscou d'une manne financière de 19 milliards de dollars, d'après les États-Unis, manière pour le G7 d'isoler encore un peu plus la Russie du système financier international. Le pays est l'un des plus grands producteurs d'or et l'un des plus grands exportateurs. Les dirigeants mondiaux qui veulent également maintenir un front uni alors que la guerre vient de rentrer dans son 5e mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit d'ailleurs prendre la parole ce matin par visio lors de cette réunion. En plus du renforcement des sanctions contre l'ennemi russe, il doit demander des armes supplémentaires ainsi qu'un soutien financier plus important.
Magali Santulli, et après ce sommet du G7, les pays membres de l'OTAN se réunissent à partir de demain à Madrid. Hier, plusieurs milliers de personnes ont justement manifesté dans les rues de la capitale espagnole pour réclamer la paix et exiger la dissolution de l'Alliance Atlantique. En Équateur, le geste du gouvernement pour tenter d'apaiser la colère des manifestants. Après 2 semaines de violents affrontements entre des milliers d'indigènes et les forces de l'ordre, le président Guillermo Lasso a annoncé la réduction des prix du carburant à l'origine du mouvement de contestation. Il demande en parallèle de cesser les manifestations sous peine de stopper la production de pétrole. Un mouvement de colère qui a fait plus d'un demi-millier de blessés.
Un retour en France avec cette histoire assez incroyable. Les pharmaciens des hospices civils de Lyon se sont mobilisés pour fabriquer un médicament qui n'existait plus en France.
Et oui, une histoire qui débute en 2020. Un adolescent qui vient de recevoir une greffe du foie souffre de diarrhée sévère. Pour le soigner, un seul remède, la fumagiline. Problème, le médicament est introuvable. La production s'est arrêtée depuis plusieurs années. Alors les pharmaciens lyonnais ont remué ciel et terre pour trouver quelques grammes de cette molécule. Ils y sont parvenus et à ce jour, 27 personnes ont pu bénéficier de ce médicament. L'équipe médicale espère aujourd'hui pérenniser la production. Le docteur Camille Mérienne est pharmacien aux Hospices Civils de Lyon.
Le seul traitement efficace contre ce parasite est une molécule qui s'appelle la fumagiline, une molécule qui ne se fait plus sous forme de médicament depuis quelques années. Nous avons donc été sollicités par les parasitologues et les médecins de notre hôpital pour apporter une solution pour ce jeune patient actuellement. Et lorsque nous avons fait la recherche en 2020, nous avons retourné la terre entière, littéralement. Nous avons réussi à trouver quelques grammes de matière première d'un reliquat de production. Et ces quelques grammes ne sont pas inépuisables. Et actuellement, nous cherchons un chimiste qui puisse reproduire cette poudre afin de permettre soit à un industriel de reprendre la production du médicament, soit à des pharmacies hospitalières de faire des doses individuelles au cas par cas pour des patients.
Propos recueillis par Charlotte Mongibaud de RCF Lyon.
Et puis Thomas, l'été approche, une période souvent synonyme hélas d'abandon d'animaux.
Oui, alors dans les Vosges, une association propose à des familles de devenir familles d'accueil pour chats. Objectif, permettre à ces félins de découvrir et de renouer avec la sécurité d'un foyer en attendant de lui trouver une famille adoptive définitive. Explication de Victoria Moques, vice-présidente de l'association Chabandon.
Ça consiste à accueillir un ou des chats à son domicile, le sociabiliser, le soigner, le remettre en état un petit peu, parce que parfois, ben voilà, ils sont un petit peu des cassés de la vie, des abîmés, des abandonnés, donc il y a des traumatismes, jusqu'à leur adoption. Donc ça peut prendre 1 mois, comme ça peut prendre 6 mois si l'animal a besoin de plus de temps pour se remettre. Tout ça, c'est une activité bénévole qu'on fait en plus de son travail et en plus de tout ce qu'on peut avoir dans sa vie. On a environ un peu plus que 60 chats en accueil, sachant qu'il y a des chats qui vont rester en famille d'accueil à vie, c'est-à-dire qu'en fait, on a des chats, par exemple, qui sont en panier derniers retraites, donc ce sont des vieux chats, mais on a aussi des petites mamans avec leurs chatons qui, eux, chercheront rapidement leur famille d'adoption et qui ensuite pourront laisser la place à d'autres animaux qui chercheront également un accueil.
Propos recueillis par nos confrères de RCF Jéricho Moselle.
Merci beaucoup Thomas Dulin pour ce journal. Tout de suite, voici l'invité local de votre rédaction.